Chers frères et sœurs, aujourd'hui, quel contraste! Quel contraste entre deux images du Christ. Ce Jésus que nous avons sous les yeux, derrière moi, celui de la miséricorde, l'artiste a fait ce qu'il a pu. Il faut reconnaître que ce Jésus a un peu la tête penchée, le regard quelque peu langoureux. Et puis ce Christ de l'Apocalypse, un Jésus qui fait un peu peur, qui est précédé par des trompettes, et quand il apparaît, on tombe comme mort. C'est ce que nous dit saint Jean. Et si on lit la totalité du texte dans l'Apocalypse, on est encore plus impressionné. Voilà que de sa bouche sort une épée qui n'a rien de sympathique. Voilà que ce Christ de la miséricorde, c'est le Christ de l'Apocalypse que la liturgie aujourd'hui nous fait contempler. Alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, souvenons-nous toujours que la liturgie est celle qui doit nous façonner. La mort de Dieu, nous le disons, nous la refusons. Les chrétiens, c'est vrai, continuent de proclamer la victoire du ressuscité, mais il semble que parfois, dans nos sensibilités, quelque chose de cette mort de Dieu soit resté, que cela pèse encore. Comment ça se traduit? Eh bien, le Christ ne doit plus être dérangeant, il ne doit plus faire peur. Il est relégué, on en est sûr, dans la sphère privée. Mon Créateur et moi-même, disait un auteur anglais. Un Christ, c'est vrai qu'il a toute sa raison d'être, s'il m'évite de consommer quelques anxiolytiques. C'est très souvent, pour ne pas caricaturer, la réaction que nous avons quand nous allons prêcher devant les classes. Mais si croire à Jésus, ça te fait du bien à toi, mais n'hésite pas, je suis très content pour toi, moi j'ai un autre chemin. Combien c'est fréquent, ce type de réaction? Ah oui, ce n'est pas un Christ qui dérange, ce n'est pas un Christ qui a la prétention à l'universalité. Il n'a pas accès à l'espace public qui est réservé pour les adultes. Et finalement, ce Christ, il a été peu à peu privé de sa gloire, de sa puissance et de cette prérogative de juger le monde. Et il faut le dire, ce Christ, il a trouvé un écho favorable dans notre Occident. Quelle est la figure majeure et attractive en Occident? Ce n'est plus le héros, c'est la victime. Un Christ qui soit plus victime que vainqueur, et on ne comprend plus le lien entre les deux. Alors c'est vrai, c'est un Christ qui s'identifie à toutes les victimes, tous les pauvres, tous les pécheurs. Et nous sommes fiers d'avoir un Dieu comme cela. C'est beau. Mais ce n'est qu'un des volets de la riche personnalité de notre Seigneur. Car disons-nous le bien, la miséricorde de Dieu, ce n'est pas d'abord partager nos souffrances, notre péché. La miséricorde, c'est être source de vie. Sinon, on aurait et on aurait dû faire du Vendredi Saint cette fête de la miséricorde. Un Jésus qui meurt sur la croix, qui demeure au plus profond de nous dans nos enfers. Mais ce ne serait pas juste. Être miséricordieux, c'est donner une vie nouvelle. Et c'est pour cela que seul Dieu est miséricordieux. Pas de miséricorde sans puissance divine, pas de miséricorde sans toute puissance divine. Être miséricordieux, c'est un mystère de création, de recréation. Dieu rétablit le pécheur dans sa grâce, lui redonne cette vie divine. Voilà pourquoi, quand on parle de miséricorde, il faut tourner les yeux vers ce Christ, peut-être un peu inquiétant, mais à travers cette description que nous en fait saint Jean, affleure sa gloire, sa puissance, sa grandeur. N'oublions pas que Jean écrit son Apocalypse quand les chrétiens commencent à être persécutés, non plus seulement par les Juifs, qui sont le dernier de tous les peuples, mais par l'Empire romain, c'est-à-dire par la civilisation la plus prestigieuse, c'est-à-dire par le monde entier. Un moment, donc, où c'est celui du découragement. Et si le Christ n'était pas vainqueur? Alors que fait saint Jean? Brusquement, si je puis dire, il tire le rideau et il révèle ce qu'il y a derrière, la gloire de Dieu. Comme nous avons besoin aujourd'hui de retrouver le sens de l'Apocalypse. Nous savons bien que la marge de manœuvre des chrétiens est de plus en plus réduite. Et du coup, nous agissons un peu comme si le Christ restait au tombeau. Nous l'empêchons de sortir, non pas parce que nous refusons le credo, et parce que, comme on dit, on n'y croit plus, comme on ne croit plus à la victoire d'une équipe de foot. Parce que nous sommes devenus un peu dans notre esprit comme des victimes, parce que nous ne l'avons que trop bien intégré. Les chrétiens sont la haine du genre humain, comme disait un auteur romain. Oui, le monde a de la haine contre nous. Du coup, tous nos raidissements, toutes nos timidités, nos manques d'audace, tout cela témoignant que nous nous appuyons trop sur nos propres forces. Vous vous souvenez, le cardinal Bergoglio reprenait cet extrait de l'Apocalypse. Voici que je me tiens à la porte et que je frappe. Mais il inversait cette contemplation en disant: et si le Christ frappait depuis l'intérieur de notre propre cœur, depuis l'intérieur de son propre tombeau, depuis l'intérieur de sa propre Église, qui ne le laisse pas sortir parce qu'elle est trop autoréférentielle, parce qu'elle est trop timide, parce qu'elle a trop peur, et qu'elle devient finalement une limite, une frontière à sa puissance et à sa gloire. Il nous revient donc à nous-mêmes de lui ouvrir les portes de nos vies pour que nos paroles, nos visages, nos cœurs soient comme des occasions pour le Christ de se manifester à l'univers. Nous avons besoin, chers frères et sœurs, de rééduquer cette image du Christ en nous. Ce Christ, anémié, il faut lui redonner des couleurs, de la vigueur, de l'attractivité. Et quels sont ces lieux où nous pouvons retrouver cet authentique visage du Christ? Eh bien, d'abord, sa parole. Quand nous lisons l'Écriture, quand nous lisons les psaumes, quel extraordinaire portrait de notre Seigneur, parfois bien loin de nos livres de spiritualité. Je cite un des psaumes. « Le Seigneur, il est semblable au soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre. Il s'élance dans cette course avec la joie d'un héros. Il se lève d'une extrémité des cieux, il achève sa course à l'autre extrémité, rien ne se dérobe à sa chaleur. » Relisons aussi les textes de Daniel, de l'Apocalypse. Un autre lieu encore, nos liturgies. Que doivent-elles être? Des lieux où la gloire de Dieu peut se répandre. Les édifices, les champs, les fleurs, les ornementations, tout cela doit procéder de cœur, d'intelligence, d'humanité touchée par la grâce. Nos liturgies doivent manifester que l'Église est le lieu où se réalisent les volontés du Seigneur. Tel nous prions, tel il est. Vous vous souvenez que Jean-Paul II disait « La liturgie, c'est le ciel sur la terre. » Et puis, en plein mai 68, les plus âgés d'entre nous, vous vous souvenez, cette avalanche de discours, ces polémiques, la gauche qui attaque, la réaction qui répond, ce ni Dieu ni maître, qu'on dit à tout va, eh bien, le père Delphieux, créateur des fraternités de Jérusalem, se dit, eh bien, moi, je ne vais pas rajouter des discours au discours. Ce que je vais faire, c'est que je vais déployer cette magnifique liturgie monastique, grandiose et profonde, au cœur des cités, pour montrer quel est notre Dieu. Chers frères et sœurs, pourquoi aujourd'hui Thomas ne reconnaît pas son Seigneur ? Pourquoi il ne le reconnaît pas dans la gloire ? Eh bien, si je puis dire, c'est parce qu'il a loupé la liturgie du dimanche précédent. Il n'était pas avec les apôtres, et du coup, il lui manque quelque chose. Eh bien, voilà, cette liturgie, c'est le lieu où nous réactivons en nous ce sens du Christ glorieux. Mais c'est aussi toute notre culture qui doit être imprégné de l'Évangile. Le chrétien, eh bien, il ne peut pas s'auto-inhiber. On donne souvent le meilleur de soi-même pour son travail et puis ce qui reste pour la foi, les miettes, et je dis pour moi. Non, eh bien, notre foi, elle doit imprégner tous les domaines de notre vie. Alors, il faut de l'inventivité, de la créativité, certes, mais il faut l'économie, la vie sociale, que tout cela porte la marque de l'Évangile. Il faut que notre culture aussi soit imprégnée de cet Évangile. J'ai été frappé par l'incendie de Notre-Dame, bon, par le drame que ça peut représenter, mais surtout pour le sentiment que cela a éveillé dans les gens. Nous avons vu comment cette synthèse de la culture et de la foi produisait cette très forte attractivité, réveiller dans bien de nos contemporains et compatriotes le sentiment d'avoir une âme française et chrétienne. Cette fierté même d'être fils de cette civilisation. Voyez la force de cette synthèse quand les rayons de la gloire du Christ touchent notre culture. C'est là l'enjeu. Il est capital. Chers frères et sœurs, c'est la tâche des laïcs, surtout, de faire parvenir ces rayons de la gloire de Dieu dans les réalités les plus concrètes, les plus temporelles, les plus matérielles de notre vie. C'est une tâche magnifique, mais elle est difficile. Alors, levons les yeux vers Notre-Dame. Que Notre-Dame, qui est justement magnifiquement illustrée, représentée, qui a comme eu un écho fantastique dans notre pays, à travers toutes ces cathédrales qui ont pu déceler cette féminité offerte à Dieu et l'incarner dans ces poèmes de pierre que sont les cathédrales, ces cathédrales qui nous attirent tant, eh bien voilà que Notre-Dame nous aide à réaliser cette œuvre et la gloire du Christ sera manifestée.